Mes frères bien-aimés, le premier enseignement de cet évangile est que notre Seigneur connaît la Bible par cœur. Il est en pleine controverse et pour se défendre, que fait-il? Il sort deux exemples bibliques que, j'en mettrai ma main à couper, la grande majorité d'entre nous ne connaît pas ou du moins ne saurait résumer. Mes frères, il faut que cela change. La parole de Dieu doit être notre milieu de vie, car c'est à travers elle que nous découvrons qui est la Sainte Trinité, comment elle agit dans notre histoire et ce qu'elle attend de nous. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, affirmait Saint Jérôme, et il n'a pas tort. Il faudrait même dire, ignorer les Écritures, c'est ignorer la sagesse de Dieu. Et c'est donc ignorer ce qu'est réellement la création, l'homme, la femme, le but de notre vie et tout le reste. Mes frères, je le dis à vous comme à moi, il n'est pas normal que nous ne connaissions pas les récits de l'Ancien et du Nouveau Testament, où nous voyons Dieu en pleine action. Nous devrions être comme des poissons dans l'eau quand nous ouvrons les Saintes Écritures. Faisons donc quelque chose pour que ça change. Pas forcément en nous plongeant directement dans le texte, qui est parfois difficile d'approche, mais en lisant par exemple des bandes dessinées qui racontent l'histoire biblique. Il y en a de très bien faites. Et si vous n'avez pas d'idée, je peux vous en donner. Mais revenons à l'évangile de ce dimanche. Le Christ retourne dans son village natal et tout semble bien se passer puisque le discours qu'il tient est apprécié par tout le monde. C'est alors que le Christ va leur sortir la dorénavant fameuse maxime « Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays ». À première vue, on peut avoir l'impression que le Christ se trompe. Il a un accueil favorable en son pays, puisque tout le monde lui rend témoignage. Mais en fait, si on creuse un peu, on se rend compte que cela n'est qu'une façade. Si les Nazaréens font bon accueil au Christ, ce n'est pas pour ce qu'il est, sa personne, ils n'en ont rien à faire, tout comme son enseignement, mais c'est pour ce qu'il fait. Preuve en est que lorsqu'il leur annonce qu'il n'accomplira aucun miracle, ils deviennent furieux et veulent le tuer. Voyez, ce n'est pas un accueil favorable, mais un accueil intéressé. Le Christ a donc bien raison, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Et pour étayer son propos, il cite deux exemples de l'histoire d'Israël que tous ses interlocuteurs ont en tête, car ils concernent deux immenses prophètes, Élie, qui est d'ailleurs le prophète le plus cité dans le Nouveau Testament, et Élisée, son successeur. Les deux situations sont à peu près similaires. Nous sommes en présence du peuple d'Israël, qui, une énième fois, ne respecte pas la loi que leur a donnée Dieu. Celui-ci leur envoie alors un prophète pour leur dire qu'ils courent à leur perte en ne suivant pas ses instructions. Mais ils ne se méfient pas de cette mise en garde et arrive ce qui doit arriver. En conséquence de leurs nombreux péchés, des malheurs s'abattent sur eux. Du temps d'Élie, il s'agit d'une absence totale de pluie pendant plusieurs mois. Du temps d'Élisée, il s'agit d'une épidémie de peste. Et Dieu ne peut rien faire pour remédier à ces deux catastrophes, puisque le peuple d'Israël l'a rejeté à travers ses prophètes. Et voilà qu'Élie et Élisée, chassés donc par Israël, vont être reçus par deux païens. Le premier par une veuve ayant un seul fils, le second par un lieutenant prénommé Naaman. Et ces deux païens vont accomplir ce que les prophètes leur demandent. En d'autres termes, ils leur font un accueil favorable. Et Dieu peut alors les revêtir de sa puissance. La veuve va avoir continuellement de la farine et de l'huile. Naaman va être purifié de sa lèpre. Bon, tout cela est parfait, mais en quoi ces problématiques nous concernent? C'est bien simple. Aujourd'hui, qui est le peuple d'Israël? Qui est le peuple de Dieu? C'est nous, bien sûr. C'est l'Église. Aussi comme les Juifs à l'époque d'Élie, d'Élisée ou de Jésus, nous avons tendance à penser... Puisque nous sommes ses enfants par le baptême, puisque nous allons à la messe, Dieu doit s'occuper de nous et s'occuper mieux de nous que ceux qui ne croient pas en lui. Eh bien, ce matin, le Christ nous dit « Votre manière de penser est erronée. Dieu ne traite pas les baptisés mieux que les autres. Il ne réserve pas ses dons les meilleurs à ses enfants, mais à ceux qui le reçoivent avec un cœur généreux. Et cela se trouve parfois chez les baptisés, certes, mais souvent chez les païens. Car vous les baptisez, vous vous enorgueillissez de votre titre d'enfant de Dieu, vous vous considérez comme supérieur aux autres, et vous avez alors même des exigences envers votre Père du ciel. Seigneur, lui dites-vous, je vais à l'église tous les dimanches, je prie tous les soirs en me couchant, et vous ne guérissez pas mon enfant? Vous ne me trouvez pas un travail? Si c'est ça, c'est pas la peine de croire en vous. Et voilà que vous arrêtez vraiment de croire, ou du moins, vous pratiquez de moins en moins votre foi, vous disant qu'au final, tout cela ne sert pas à grand-chose. Mes enfants, nous dit Jésus, ce que je cherche, ce sont des cœurs humbles, des cœurs généreux, des cœurs accueillants. Et malheureusement, j'en trouve trop peu chez vous. Voilà pourquoi je me tourne alors vers les païens. Mes frères, nous ne devons donc pas être étonnés si des familles ou des personnes non catholiques semblent être davantage gratifiées par le ciel que nous. Il n'y a là rien de surprenant. C'est l'histoire qui se répète, parce que le comportement des croyants que nous sommes se répète. Nous qui ouvrons les portes de nos maisons à la Sainte Trinité, si elle ne nous dérange pas trop et conforte nos vies bien établies, mais qui lui fermons les portes de nos maisons, si elle nous demande des choses trop exigeantes ou si elle ne fait pas ce que nous lui demandons. Oui, mes frères, c'est là une réalité. Nous préférons les consolations au Dieu des consolations. Vous connaissez sûrement Sainte Thérèse d'Avila, cette grande sainte qui a totalement réformé l'ordre du Carmel. Elle a donc passé sa vie à voyager de droite à gauche, afin de remettre de l'ordre dans certains monastères ou afin d'en fonder de nouveaux. Ce qui lui a valu de nombreuses oppositions de la part des évêques, des moines et des moniales. Que voulez-vous ? C'est bien connu. Dès que l'on veut changer quelque chose, les barricades se lèvent. Et voilà qu'elle se rend en 1582 à Burgos, au nord de l'Espagne, pour construire un nouveau couvent. Et sur la route qui l'y emmène, c'est la grosse galère. Tout est inondé à cause du mauvais temps qui sévit depuis plusieurs jours. Les eaux étaient si hautes, raconte-t-elle, qu'elles dépassaient les pontons sur les routes, si bien qu'on ne savait plus par où passer. Tout n'était qu'une nappe d'eau. Aussi, tous les 100 mètres, les chariots s'enlisent dans la boue. Il faut faire sortir tout le monde et dételer les bêtes d'un autre chariot pour aider à sortir l'autre de la boue. Bref, le trajet se rallonge à n'en plus finir. Ils ont de la boue plein les pieds et les habits, et la fatigue devient insupportable. Sainte Thérèse s'exclame alors vers le ciel, « Non mais franchement, Seigneur, il y a déjà tant de difficultés avec vos évêques et vos moines. Et voilà que la nature fait des siennes. C'est la meilleure, ça !»« Thérèse, lui répond délicatement le Christ, ne m'en veux pas. C'est ainsi que je traite mes amis. »« Eh bien alors, faut pas vous étonner si vous en avez si peu, » rétorque Sainte Thérèse du tac au tac. Mes frères, nous comprenons bien évidemment cette réaction qui est humaine. Mais au-delà de cette saute d'humeur, notre sainte a continué de se battre pour le Christ. Et elle nous montre par là la voie à suivre. Notre amour de Dieu ne doit pas dépendre des aléas de notre vie. Un cœur vraiment grand, généreux, affirmait Saint Jean de la Croix, qui fut le plus grand ami de Sainte Thérèse, ne se laisse jamais arrêter, quoi qu'il en coûte. Et si malaisée que soit la route, jamais il se dit c'en est trop. Sa foi monte toujours. Mes frères, si notre amour est ardent quand tout va bien et faiblard quand tout va mal, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'orgueil. Nous ne devons pas aimer Dieu parce qu'il nous donne une bonne situation, mais nous devons l'aimer parce qu'il est aimable, un point c'est tout. Allez mes frères, pour que la Sainte Trinité soit présente en nos vies, ne soyons pas comme les Nazaréens, ne soyons pas des mercenaires qui n'entrent en relation avec Dieu que pour profiter de lui et qui ne lui témoignent de l'amour que si les études se passent bien, que si la santé est bonne, que si les projets professionnels réussissent. Soyons des enfants au cœur généreux qui, même si tout va apparemment mal, prennent du temps avec Dieu, suivent ses commandements et lui lancent plusieurs fois par jour quelques mots d'amour. Amen.